بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونحن وصلنا إلى الحديث الخامس عشر. Donc nous continuons toujours l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Et nous sommes arrivés au hadith numéro 15. Donc commençons d'abord par la lecture du hadith.
An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله.
Donc d'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son invité. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde.
فَأَوَّلًا نَرَى تَرْجَمَةَ رَوِي الْحَدِيثِ.
Donc premièrement, nous allons voir une brève biographie du rapporteur du hadith.
وَرَوِي الْحَدِيثِ هو أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس إحدى قبائل اليمن.
Donc le rapporteur du hadith, comme vous l'avez entendu, c'est Abu Huraira رضي الله عنه. Il s'appelle عبد الرحمن بن صخر. Il fait partie de la tribu de Daws, qui est une des tribus du Yémen.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى عبد الشمس فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيته أبو هريرة كان قومه يلقبه بها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه بأبي هر.
Donc Abu Hurayra رضي الله عنه, avant l'islam il était appelé عبد الشمس. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abdurrahman. Et sa kunya et Abu Huraira, radiyallahu anhu, et son peuple l'a ainsi surnommé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommé Abu Hir.
Wa dakhala al-islam sanata sab' min al-hijrati bayna al-hudaybiyyah wa khaybar. Wa kana umruhu hina dhaak nahwan min 30 sana. فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمه ملازمة تامة رغبة في العلم رضي الله عنه.
Et Abu Hurayra رضي الله عنه a embrassé l'islam la septième année de l'Hijra, entre l'événement de l'Hudaybiya et l'expédition de Khaybar. Et à ce moment-là, il avait une trentaine d'années, رضي الله عنه, et il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue pour ainsi rechercher la science.
Wa kana Abu Hurayra radiyallahu anhu min ashab as-suffah.
Abu Hurayra radiyallahu anhu faisait partie des gens qu'on appelait ahl as-suffah, qui étaient des pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient peu de moyens et qui n'avaient pas de maison.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. والحديث في صحيح البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه دي: Je jure par Allah, je m'appuyais ventre à terre à cause de la faim, et je m'attachais une pierre contre mon ventre pour lutter contre la faim. Et le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari. وأبو هريرة له مناقب كثيرة. Et Abu Hurayra رضي الله عنه a énormément de mérites et de vertus, parmi lesquels ceux que nous allons citer. أولا ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Premièrement, Abu Hurayra رضي الله عنه tenait assidûment la compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد، ويقولون ما للأنصار والمهاجرين لا يحدثون مثل أحاديث أبي هريرة. ويقول أبو هريرة: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. والحديث في صحيح البخاري. Donc dans l'authentique de Bukhari, il a été rapporté qu'Abu Hurayra رضي الله عنه a dit: les gens disent qu'Abu Hurayra رضي الله عنه connaît beaucoup de hadith et Allah nous jugera tous pour nos paroles. Abu Hurayra continue en disant: ils disent que les Ansar et les Muhajirin ne rapportent pas autant de hadith que Abu Hurayra. Alors Abu Hurayra explique en disant: mes frères les Muhajirin étaient occupés par le commerce. Frères les Ansar étaient occupés par la richesse et à cultiver les terres. Quant à moi, j'étais une personne très pauvre et je restais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. Et j'étais présent quand ils étaient absents et je retenais lorsqu'ils oubliaient. Donc ce hadith montre bien que Abu Huraira était assidu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hirsuhu ala ma'rifati al-khayr wa fi'lihi. Le souci d'Abu Huraira radiyallahu anhu à connaître le bien et le mettre en pratique. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقوم الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والحديث في أخرجه ابن حبان. Donc Abu Hurayra رضي الله عنه nous dit: j'ai demandé au prophète d'Allah, ô prophète d'Allah, lorsque je te regarde, mon âme s'apaise, mes yeux se remplissent de joie. Informe-moi d'une action. Si je la pratique, je rentrerai au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: répands le salam, nourris les gens, maintiens le lien de parenté, prie la nuit alors que les gens dorment, et tu rentreras au paradis en toute sécurité. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. ثالثا حرصه رضي الله عنه على الحديث وطلب العلم. Troisièmement, ce qui montre les mérites de Abu Huraira, c'est son souci et sa motivation à connaître le hadith et à rechercher la science. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والحديث في صحيح مسلم. Dans l'authentique de Muslim, il a été rapporté que Abu Hurayra رضي الله عنه a questionné le prophète en lui demandant: ô prophète d'Allah, qui sera le plus heureux à profiter de ton intercession le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais sûr, ô Abu Hurayra, que personne ne me questionnerait sur cette question avant toi, vu ton désir ardent par rapport au hadith prophétique. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la personne qui sera la plus heureuse a profité de mon intercession, c'est celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité du cœur ou dans son âme. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. من مناقبه حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Parmi les mérites de Abu Huraira, c'est son souci d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. قيل أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بقوم وهم يتوضؤون فقال لهم أبو هريرة أسبغوا الوضوء أي أكملوا الوضوء كأنه رأى فيهم تقصيرا في الوضوء فقال لهم آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار والحديث في صحيح مسلم. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abu Huraira radiallahu anhu est passé à côté de personnes qui accomplissaient l'eau d'eau. Et Abu Huraira radiallahu anhu a constaté chez eux un manquement dans la façon de faire l'eau d'eau. Alors il leur a dit, complétez l'eau d'eau parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le feu ou le malheur aux talons qui sont non lavés pendant l'eau d'eau. وَاسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ إِمْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً فَقَالَ أين تريدين يا أمة الجبار فقالت المرأة المسجد فقال وله تطيبت قالت نعم فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وهذا في مسند الإمام أحمد. Aussi parmi les hadiths qui montrent qu'Abu Huraira رضي الله عنه était soucieux d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, c'est qu'Abu Huraira رضي الله عنه a rencontré une femme qui était parfumée. Alors Abu Huraira رضي الله عنه lui a dit où te diriges-tu? Cette femme lui a dit vers la mosquée. Et Abu Huraira رضي الله عنه lui a dit et c'est pour cette raison que tu t'es parfumée? Elle a dit oui. Alors Abu Huraira radiallahu anhu lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui sort de chez elle parfumée pour aller à la mosquée, Allah n'acceptera pas sa prière tant qu'elle ne retourne pas chez elle et qu'elle accomplit une douche comme on accomplirait une douche pour la janab. Et le hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmad. Fa Abu Huraira radiallahu anhu, aktharu as-sahabati riwayatan, wa lahu fi kutub al-hadith 5370 حديث منها 686 في الصحيحين. Et Abu Huraira رضي الله عنه est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui nous a rapporté le plus de hadith. Et on retrouve dans les livres de hadith 5374 hadith rapportés par Abu Huraira, dont 608 se retrouvent dans le recueil de Bukhari et de Muslim. وتوفي سنة 58 أو 59 في المدينة ودفن في البقيع. يا أبو هريرة رضي الله عنه est mort l'année 58 ou l'année 59 à Médine et il a été enterré dans le cimetière de البقيع. رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بترجمة راوي الحديث. Voilà pour ce qui concernait la biographie ou des points de la vie du rapporteur du hadith qui est Abu Huraira عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه. الأمر الثاني منزلة الحديث. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. Ce hadith est une référence, un fondement essentiel dans le domaine des règles de politesse. وقد حكى الإمام ابن صلاح رحمه الله عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث اليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce hadith est une référence dans les règles de politesse et il a été rapporté d'après Ibn Sallah, un très célèbre savant du hadith. Il rapporte la parole de Abi Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le savant par référence des Malikites à son époque. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit la parole suivante. L'ensemble des règles de politesse relatives aux biens découle de quatre hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith que nous étudions aujourd'hui. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté envers son voisin. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Le deuxième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la préoccupe pas. Le troisième hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, ne te mets pas en colère. Et le quatrième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous n'est pas véritablement un croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Voilà les quatre hadiths de référence et de ces hadiths découlent les règles de politesse en islam. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه اجتمل هذا الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق القولية والفعلية. ابن حجر العسقلاني nous rapporte dans l'explication de Sahih al-Bukhari la parole suivante. Il dit ce hadith comprend trois points et ces trois points rassemblent et réunissent les nobles caractères, qu'il s'agisse des nobles caractères dans les paroles ou des nobles caractères dans les actes. Voilà pour ce qui est de l'importance de ce hadith. الأمر الثالث ما يستفاد من هذا الحديث. Le troisième point que nous allons voir, ce sont les leçons, les enseignements à retenir de ce hadith. Et inshallah ta'ala, nous allons en citer 14. الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحث والإغراء لنتحلى بمكارم الأخلاق ولنلتزم بها وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وليفعل كذا وليفعل كذا كأنه صلى الله عليه وسلم قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اصمت وكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاكرم جارك وكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك. La première leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que l'islam nous appelle au noble caractère. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des formules et des tournures d'encouragement et d'incitation pour nous pousser à acquérir ces nobles caractères et embellir nos comportements par ces derniers. Et ceci se trouve dans la parole du prophète lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte. Et ici, cette formule utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette tournure, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors dis le bien ou tais-toi. Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors sois généreux envers ton voisin. Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors reçois généreusement ton invité. » الفائدة الثانية أن من مكارم الأخلاق ثلاثة أمور. أولا قول الخير أو الصمت عما سواه. ثانيا إكرام الجار. ثالثا إكرام الضيف. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que trois choses, trois actes font partie des nobles caractères. Le premier, c'est de dire le bien ou de se taire. Le deuxième, c'est de montrer et de marquer de la bonté envers son voisin. Le troisième, c'est de marquer de la générosité envers son invité. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son invité, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte généreusement avec son voisin. الفائدة الثالثة أن مكارم الأخلاق منها ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا كأداء الواجبات وترك المنكرات ومنها قول الخير والصمت عن غيره ومن مكارم الأخلاق ما يتعلق بحقوق العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que certains des nobles caractères et des bons comportements concernent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et ici, dans le hadith, parmi les droits d'Allah Azzawajal, c'est le fait de dire le bien ou de se taire. Et d'autres nobles comportements et nobles caractères concernent le droit des hommes, comme le fait de marquer de la bonté envers le voisin et de la générosité envers son hôte. Et ceci, on le retrouve dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Al-fa'idatu al-rabi'a. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, falyaf'al kada wa kada, walyaf'al kada wa kada, walyaf'al kada wa kada, yadullu ala anna hadihi al-khisala al-thalath, من خصال الإيمان وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا ما عليه أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وليس المراد بالحديث أن من لم يتصف بهذه الصفات فإن الإيمان ينتفع عنه بالكلية لا بل يدل هذا على أن إيمانه ناقص. Quatrième leçon que l'on peut retenir de ce hadith concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il honore son invité et qu'il se comporte bien avec son voisin. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que ces trois actes cités dans le hadith, dire le bien ou se taire, la bonté envers le voisin et la générosité envers son hôte, ces trois actes font partie des caractéristiques de la foi. Et ceci montre bien que les actes font partie de la foi. Et ceci est la voie des gens de la sunna et de la jama'a. Pour les gens de la sunna et de la jama'a, ils considèrent, à l'appui des versets du Coran et des hadiths prophétiques, que la foi est une croyance, c'est des actes et des paroles. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue cette foi avec les péchés. Ceci est la voix des gens de la sunna et de la jama'a et ils se distinguent des gens de l'innovation qui ont d'autres définitions de la foi qu'Allah nous en préserve. Mais ce hadith ne signifie en aucun cas que celui qui ne possède pas ces trois qualités, que cette personne-là n'est plus croyant. Mais cela signifie seulement que sa foi est diminuée, que sa foi n'est pas complète. Et cette compréhension-là des textes, c'est la compréhension des gens de la sunna et de la jama'a, qui est loin de la compréhension des khawarij et des mu'tazila et des murji'a. Al-fa'idatu al-khamisa, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, jama'a fi hada al-hadith, bayna al-imani billah, wal-imani bil-yawm al-akhir, fi hadihi al-umur al-thalatha. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لأن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس ولا دين بغير هذا الأساس الصحيح. ولأن الإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ولأن من آمن باليوم الآخر فإنه يستعد لهذا اليوم، فيقوم بالواجبات ويكثر الحسنات، ويجتنب المحرمات ويتوب عن السيئات، ويتحلى بمكارم الأخلاق. وهذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله جل وعلا. وهذا نجده في كثير من النصوص في القرآن والسنة، الإيمان بالله مقرون بالإيمان باليوم الآخر. Cinquième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le fait de dire du bien ou de se taire, le fait d'être généreux avec son voisin et de recevoir généreusement son hôte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé dans ces trois actions la foi en Allah avec la foi au jour dernier. Pourquoi ? Quelle est la sagesse ? Et on retrouve dans beaucoup de versets du Coran et dans beaucoup de hadiths la foi en Allah rattachée avec la foi au jour dernier, sans citer les autres piliers de la foi. Pour quelle raison ? Les hommes de science nous disent parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est la base, c'est le fondement de base, sans lequel il n'y a point de religion et il n'y a point d'édifice. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cite dans ce hadith. Et aussi deuxièmement, parce que la croyance au jour dernier nous rappelle la résurrection, le jugement, la rétribution des actes, en bien pour celui qui a fait le bien et en mal pour celui qui a fait le mal. Et parce que celui qui croit au jour dernier, il va se préparer pour ce jour. Et ainsi, il observera les obligations et multipliera les bonnes actions. Il délaissera les interdits, s'en éloignera et constamment il se repentira à Allah subhanahu wa ta'ala de ses péchés. Et il s'acharnera à s'orner des nobles caractères, comme le fait de dire le bien ou de se taire, comme le fait d'honorer son invité et comme le fait de bien se comporter avec son voisin. C'est quoi qui nous pousse à faire cela? C'est le fait de croire à Allah Azza wa Jal et au jour dernier, le jour où on se lèvera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici et dans d'autres hadiths a cité avec la foi en Allah la foi au jour dernier. Al-fa'idatu sadisa, at-targhib wal-hath wal-amr fi al-kalam fima huwa khayr was-samt 'amma siwah. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا إرشاد للعبد أن يسلك أحد الأمرين في الكلام، فإن كان الكلام خيرا فليتكلم به، وإن لم يكن خيرا أمسك عنه، وهذا سبيل النجاة. La sixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a un encouragement, une incitation, voire même l'ordre de parler seulement dans le bien, ou de se taire pour toute autre chose. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et ce hadith nous enseigne à observer une ligne de conduite avant de parler. Avant de parler, si la parole prononcée est bien et bénéfique, alors on parle et on l'a dit. Par contre, si la parole prononcée est mauvaise et nuisible, alors qu'on s'abstienne de parler et qu'on se taise. Voilà ce que nous enseigne ce hadith. Al-fa'idatu sabi'a, anna al-kalam as-sadir 'an al-insan yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-awwal an yakuna khayra fa'innahu yaquluhu. أي الكلام بالخير أفضل من السكوت عنه، وهذا بعد التفكر والتأمل. ثانيا أن يكون الكلام شرا فإنه لا يقوله أبدا، أي السكوت عنه واجب. ثالثا أن يكون الكلام مباحا لا خير فيه ولا شر، فإنه يصمت أي يسكت، أي السكوت عن هذا الكلام الذي لا خير فيه ولا الشر أفضل من الكلام به، لأن الكلام المباح قد يجر إلى الكلام المحرم. فنبدأ أولا بالكلام المباح ثم نكثر في الكلام المباح وفي الأخير نقع في الكلام المحرم.